d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Ludo, bonjour Ludo.
Bonsoir.
Il y a Claude à la technique, c'est Gilles également avec vous au micro. Ce soir, nous avons des invités, nous recevons Caroline de Sud Culture, également du CIP, et Clémence et Hélène des maternitantes. Voilà, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation.
Bonsoir. Merci.
Donc ce soir, nous parlerons principalement des propositions faites par le CIP pour un nouveau modèle d'indemnisation du chômage. Nous parlerons également des intermittents et d'un collectif créé en 2009, les Matermittentes. Nous parlerons également des droits rechargeables. Bien, encore merci de nous suivre encore aujourd'hui, ce soir, dans cette émission. Nous allons commencer peut-être par nous récapituler un petit peu les événements qui se sont déroulés en 2014. Donc, toutes les occupations, les manifestations, voilà. Qui veut prendre la parole parmi vous ?
J'y vais. Oui, heureusement, l'an dernier, il y a eu quand même pas mal de mobilisations et ça a fait des moments qui ont vraiment fait plaisir. Qui sont donc les mobilisations autour de la lutte par rapport à l'assurance chômage. Évidemment, ça, on savait avant d'avoir les préconisations du MEDEF qu'il fallait s'attendre à des baisses de droits si on se mobilisait pas. Mais c'est toujours un petit peu compliqué de lancer une mobilisation avant qu'il y ait exactement des choses qui soient dites. Ce qui est un peu dommage, mais ça évolue, disons. Et donc une fois, excusez-moi, on n'avait pas dit qui allait raconter cette histoire. Je me retrouve. les négos ont commencé en début d'année 2014. Les discussions. Fin 2013, il y avait déjà des collectifs qui s'étaient un petit peu mobilisés, même en fait avant, puisque il a été question que les négos soient un an plus tôt. Et donc en sachant que non seulement ce qui allait nous arriver, mais surtout que ce qu'on voulait, c'était déjà une amélioration des conditions qui existaient avant cette négociation, qu'on trouvait injuste. Et donc il y a eu d'un côté le comité de suivi avec les organisations du spectacle vivant et d'un autre côté un collectif qui s'est appelé Collectif Unédic qui regroupait aussi des assos de chômeurs et des syndicats.
Peut-être qu'on peut préciser ce que c'est que le comité de suivi.
Tout à fait. Le
comité de suivi, ça a été créé en 2004, il me semble, à l'initiative de la coordination des intermittents et précaires, et donc qui rassemblait un ensemble de syndicats professionnels, la coordination et des députés dont à l'époque c'était qui ? Caro ?
Bon, non, je... jamais.
Non, en fait, à l'époque, le comité de suivi, voilà, le fait est qu'il a réellement, il y a eu une... C'était un comité suivi parlementaire. Il y avait énormément de parlementaires qui participaient. Et c'est même arrivé à une proposition de loi pour la réforme des annexes 8 et 10. Et justement, pour inscrire dans la loi les choses qui étaient réclamées, comme le fait que d'avoir un décompte des heures travaillées et des indemnités données sur un an, c'est-à-dire pour regarder sur quelle période on fait les heures et pour savoir sur quelle période on est indemnisé, parce que c'était la réforme de 2003 justement casser ça en passant de ce système-là d'indemnisation sur un an et de date anniversaire à un système où on avait droit à un certain nombre de jours donc seulement et donc qui était glissant au fur et à mesure de ce qu'on travaillait, donc impossibilité de vraiment savoir où on en était et en plus incohérence par rapport au fait de dire que, ben, de toute façon, même si on travaille beaucoup, qu'on a beaucoup, enfin, qu'on gagne beaucoup, et ben, on aura de toute façon ces indemnités chômage.
Je précise pour les auditeurs qu'on parle bien du régime intermittent du spectacle.
Oui, oui. En l'occurrence, par rapport, par rapport au comité de suivi, le comité de suivi, c'était vraiment le comité de suivi pour l'intermittence, comité de suivi parlementaire sur le. Uniquement sur cette question, mais où, à cet endroit-là, la coordination des intermittents et précaires a toujours défendu le fait que ben, c'est ce type d'indemnisation doit pas concerner uniquement les intermittents du spectacle, mais bien l'ensemble des travailleurs à emploi discontinu, puisque une indemnisation chômage, c'est pas par rapport à un type d'emploi, de métier, de secteur dans lequel on travaille, mais bien par rapport à la façon dont on est employé, et donc de façon discontinue et irrégulière.
Oui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus contemporain que ça l'était au moment donc, de la création de l'UNEDIC, c'est-à-dire effectivement où les mi-temps repose la question du type d'indemnisation par rapport aux mi-temps, justement.
Oui, oui, ça a été... Les règles d'indemnisation ont été créées dans l'idée d'une norme d'emploi de CDI et où on était au chômage de façon exceptionnelle. Et alors que maintenant, ben voilà, les CDD, c'est plus de 80% des embauches. Donc les formes...
C'est devenu la norme, en fait, un petit peu.
La norme d'embauche, ben oui, carrément.
La norme d'embauche.
Et sauf que, ben voilà, tout est fait pour rester dans cette idée de plein emploi, de CDI, de choses qui sont absolument pas adaptées pour les gens et la forme de vie qu'ils ont.
D'ailleurs, je précise que la négociation, enfin, ou la réforme plutôt du régime d'intermittent portait aussi sur les intérimaires, voilà.
En fait, là, on s'est mis à parler des intermittents parce qu'on parlait de la proposition, enfin, du comité de suivi. On voulait expliquer, on est parti dans d'autres sens, mais ce qu'était le comité de suivi parlementaire à l'époque de 2004, enfin, qui commençait en 2004. Mais en effet, la réforme dont on parle à la base, c'est la réforme de l'indemnisation chômage, donc pour l'ensemble des travailleurs.
D'accord. Alors par la suite, il y a eu d'autres mobilisations, d'occupations de Pôle emploi, ce genre de choses, ou en 2014, non ?
Ah oui, ben oui. En fait, à partir du moment où il y a eu des attaques déterminées, évoquées clairement par le MEDEF, parce que c'est comme ça aussi que se passent les négociations, en fait. C'est soi-disant dans un des négociations où sont là, enfin des négociations, hein, où sont là tous les partenaires sociaux, les syndicats représentatifs interprofessionnels. Mais en fait, où les gens ont éventuellement des propositions, pas tous d'ailleurs, on a bien l'exemple des propositions de la CGT qui ne sont absolument pas discutées, là un endroit où il y a des réelles propositions, alors que ce qui se discute, ça va être la base donnée par le MEDEF. C'est on attend d'avoir la copie du MEDEF et ce qu'il propose pour pouvoir dire ah ben non on veut pas autant de choses horribles, on en voudrait un petit peu moins. Voilà, c'est un peu catastrophique.
D'accord. D'où cette proposition du CIP de faire effectivement une nouvelle convention de son côté, des propositions en tout cas pour une nouvelle convention.
Alors, c'est pas exactement comme ça que les choses se vont passer. Enfin, si on reprend un peu les événements, donc le 25 mars, il y a une proposition de texte, donc qui est pas signée par, qui est refusée à la signature par la CGT par la CGT tout court et la CGC, il me semble. Enfin, bref, un autre syndicat. À partir de là, il y a toute une mobilisation pour contester donc l'agrément de cette convention UNEDIC qui est censée être agréée fin juin ou le 1er juillet ou le 25 juin. L'agrément. Alors qu'est-ce que c'est qu'un agrément ? L'agrément, c'est donc la validation par le ministre du Travail de la convention, donc de la négociation qui a eu lieu entre les partenaires sociaux. Donc il y a eu toute une lutte, et la lutte a bien démarré de là, contre ce qu'on appelle l'agrément de cette convention UNEDIC. Et cette lutte, elle a été principalement portée par les précaires, et notamment les intermittents du spectacle, du fait qu'il y a tout un historique, comme on le précisait tout à l'heure, un historique de l'expertise du régime d'indemnisation, du régime de l'intermittence, mais également, du coup, de la question du salariat et du chômage, et de comment indemniser les salariés, quels qu'ils soient.
On est bien d'accord, tu parles bien d'une expertise du côté des intermittents, hein, c'est-à-dire des économistes qui sont venus en renfort des intermittents pour faire des propositions alternatives.
Non, c'est absolument pas ça. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de le préciser. C'est très intéressant parce que justement, l'expertise, elle vient vraiment des intermittents elles-mêmes et elle existe depuis 2004, enfin même avant. Hein, c'est vraiment tout un travail d'année en année qui s'est comme ça agrémenté de réflexions et d'analyses très poussées et très techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la coordination des intermittents est en mesure de proposer un modèle d'indemnisation. La coordination des intermittents est précaire, est aujourd'hui en mesure de proposer un modèle d'indemnisation chômage qui est beaucoup plus distributif que celui qui est actuellement en l'état, quoi. Mais donc tout ça pour dire que pour revenir à ces événements, c'est d'abord une lutte donc qui est portée par les précaires et les intermittents du spectacle qui sont forts d'une analyse et d'une expertise de ce qu'est le régime et de comment il fonctionne. Et donc c'est partant de là que donc il y a eu toute une mobilisation, il y a eu effectivement un certain nombre de manifestations dans la rue, il y a eu des occupations, énormément d'occupations de lieux, du MEDEF en province, à Paris, il y a eu des actions assez incroyables, de, par exemple en haut du Philharmonique à la Villette, il y a eu bon, énormément d'interventions aussi dans des colloques un peu d'économistes, etc. Bon. Et il y a eu aussi une lutte juridique qui s'est entamée à partir de là, donc pour une fois que le ministre a signé malheureusement, donc a agréé malheureusement cette convention, donc une lutte, une requête, ce qu'on appelle une requête au Conseil d'État, donc pour invalider la convention UNEDIC. Voilà. Donc ça, tout ça a couru de, on va dire, de février 2014 à juillet. 2014. Voilà, ça c'est pour la première partie de la lutte.
D'accord.
Voilà.
Après le recours au Conseil d'État, c'était au mois de novembre 2014, plus tard.
Oui, dans le sens où on a lancé le.
Enfin, juste dire que la requête, elle a été portée par plusieurs collectifs et syndicats, par Sud, par la coordination d'intermittents. Par une association qui s'appelle Recours Radiation et le collectif Les Matermittents.
Et c'est une requête qui est aussi portée par la CGT.
CGT Spectacle.
Oui.
Il y a deux requêtes. Enfin, bon, bref. Mais en tout cas, il y a diverses actions juridiques qui font que il y a une opposition. Il y a d'abord une opposition sur la déloyauté, ce qu'on appelle la déloyauté des négociations, puisque au moment des négociations entre le MEDEF, enfin les syndicats, les partenaires sociaux, il y a eu ce que la CGT dénonce de négociations déloyales. Donc il y a eu une procédure qui est en cours d'ailleurs. Alors,
pourquoi elle parle de négociations déloyales d'ailleurs?
Ben, ça, il faudrait lui demander, mais après.
En gros, ils remettent en question le fait que les négociations se passent au siège du MEDEF, que beaucoup de négociations se font aussi dans les couloirs à la machine à café. C'est-à-dire que même il y a d'autres syndicats maintenant qui étaient contre jusqu'à présent ces arguments-là, mais qui rejoignent la CGT aussi en disant qu'il n'y a plus besoin de faire des séances nocturnes, enfin qu'on pourrait rétablir une certaine équité dans le cadre de la discussion.
D'accord.
Oui, parce que normalement, tout le monde est censé être à la table pour discuter, et finalement, le dernier jour en particulier, il y a eu une interruption de séance hyper longue. Et pendant ce temps-là, en effet, ça s'est discuté dans les coins, en une personne en face de l'autre, et ils sont venus en disant, voilà, c'est ça.
D'accord. Est-ce que vous avez eu des réponses par rapport aux requêtes qui ont été déposées? Est-ce qu'il y a eu des mouvements, des choses?
Du coup, la CGT, sur la requête en raison de la déloyauté des négociations, est passée en jugement. Elle a perdu et elle fait appel. Et donc, il y a une réponse là, en second lieu, qui va être d'ici, je pense, 15 jours, 3 semaines.
D'accord.
Après, par rapport à la requête que donc nous avons lancée collectivement, donc plusieurs, comme le soulignait Clémence, plusieurs collectifs et organisations, alors, on a déposé cette requête donc en novembre, et pour l'instant, on a eu le mémoire défensif de la CFDT, donc qui répond, qui répond aux organisations et collectifs. Voilà, et donc on attend, on va avoir certainement une réponse d'ici, enfin on va certainement avoir un jugement ou une audience d'ici 6 mois, 1 an, enfin pas avant de toute façon. Et il est probable que le MEDEF, à un moment donné, fasse une conclusion défensive de la même manière que la CFDT.
Alors, sachant qu'entre-temps, il y a eu les festivals, entre les festivals d'été.
Bah, par rapport à ça, en fait, pour casser un peu la mobilisation qui a commencé à prendre de manière assez forte à Montpellier, au festival Printemps des comédiens, Valls a proposé de lancer une grande concertation qui serait menée par ce qu'on a appelé le trio, c'est Hortense Archambault qui était l'ancienne directrice du Festival d'Avignon, Jean-Patrick Gilles qui avait déjà participé à un grand travail à l'Assemblée nationale sur l'emploi dans les métiers artistiques, et Combrexel.
Jean-Denis
Combrexel, qui est l'ancien directeur général du travail, quelque chose comme ça. Donc ils ont mené.
Et où il a fait déjà beaucoup de mal à l'inspection du travail.
Voilà. Et donc ils ont mené les concertations, ils ont réuni. Eux donc se sont targués pendant toutes les concertations de leur grand fait d'armes, c'était de réunir autour d'une même table des gens qui ne se parlaient plus. Donc il y avait l'UNEDIC, des représentations du MEDEF, de Pôle emploi, de la coordination, d'autres collectifs aussi. Ça a eu lieu sur plusieurs séances entre juillet et décembre. Mais donc c'est pareil, toute la communication autour des concertations, c'est vraiment de dire que ça a duré pendant des mois et qu'il y a eu un travail en profondeur. En fait, en ayant assisté aux tables de concertation, il n'y avait pas d'ordre du jour, c'était pas préparé. C'était assez pauvre au niveau des échanges. Et donc le trio a remis son rapport au mois de décembre. Et il y a eu une séance plénière en présence de Flore Pellerin, le ministre du Travail Rebsamen et le Premier ministre qui a fait état du coup de sa préconisation de sanctuariser les annexes 8 et 10 en insérant tout ça dans un projet de loi dont Hélène peut parler.
C'est pas exactement ça que je voulais dire. Moi, je voulais simplement préciser le fait que en lançant ces concertations, a séparé un mouvement possible entre les précaires et les intermittents du spectacle. C'est-à-dire qu'il a isolé la caisse des intermittents du spectacle pour sabrer un mouvement qui pouvait être lancé au cours de l'été. Donc ça, c'est très très important de dire que on pouvait effectivement impulser quelque chose et que il a cassé ça. Et donc on s'est retrouvé, et on était bien en peine d'ailleurs de pouvoir lutter par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à négocier, à discuter lors de cette table de concertation dans un cadre qui était celui de l'intermittence. Or, par exemple, pour ce qui concerne la problématique qu'on développe dans le cadre du collectif des matermittentes, c'est une question qui dépasse largement le cadre de l'intermittence, c'est-à-dire que les problèmes, le collectif des matermittentes donc a été créé suite à des problèmes d'indemnisation à raison de chômeuses en raison de maternité ou de maladie, et donc ça concerne pas uniquement les intermittentes du spectacle. Et donc en séparant en fait les types de chômeurs ou en tout cas les types de salariés et en faisant des concertations pour les intermittents du spectacle, enfin en tout cas pour le régime, il réduisait les problématiques à certaines catégories de chômeurs.
C'est-à-dire à l'annexe 8 et 10.
C'est ça. Donc c'est évidemment ce dont on peut parler, mais on peut aussi dire que nous on a toujours lutté de manière indifférenciée, c'est-à-dire que c'est vraiment une question de principe. De principe de réduction des droits sous toutes ses formes, que ce soit en termes de chômeurs, en termes de malades, enfin en qualité de malade ou de femmes enceintes, quoi. Voilà.
D'accord. Oui, c'est-à-dire élargir le débat en résumé. Okay. Ceci dit, à la manif justement contre les négociations inédites, il y avait quand même beaucoup beaucoup d'intermittents. C'était une grosse cohorte, de mon souvenir. Beaucoup plus on avait le sentiment qu'il y avait beaucoup plus d'intermittents que de précaires. Alors après,
Non, bien sûr, parce que l'expérience dont on parlait tout à l'heure est certes une expérience d'expertise de chacun, chacun de ceux qui se sont impliqués là-dedans. Pour comprendre comment ça fonctionne, mais aussi justement sur les mobilisations en fait et sur les formes de mobilisation, sur les formes d'action. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Par contre, tu vois faire.
Et
aussi,
donc non, mais ce qui est important, c'est que nous, on peut se dire qu'on travaille pour l'ensemble,
Mais l'important, c'est qu'on parle d'un endroit. Et donc, on parle bien de cette forme d'indemnisation chômage et de cette forme de salariat, qu'on pourrait évidemment répliquer ou rapporter à d'autres types de salariés. Mmh. Mais donc, on ne va pas... effectivement, il y avait peut-être peu de précaires, mais et encore, ce n'est pas le...
Ouais. Vas-y. Et puis, ben, puis voilà, je veux dire, déjà, on le sait très bien que de toute façon, hein, et pas seulement sur ces questions-là, c'est très difficile, de plus en plus difficile de se mobiliser, et notamment quand on est dans des conditions précaires et stigmatisées et qu'on nous dit que déjà on devrait être bien content de ce qu'on nous donne et que donc on va pas en plus râler et en fait on s'auto contraint par rapport à ça et on n'ose pas réclamer et donc il y avait en effet assez peu d'autres enfin proportionnellement moins d'autres travailleurs précaires. Mais ce qui est terrible aussi, c'est par rapport au chômage, justement, la stigmatisation qui existe par rapport à ça fait que les gens qui sont au chômage, eh ben, non, ils veulent pas se considérer, ils vont pas aller sur une lutte pour le chômage, qui, pour la défense des droits au chômage, parce que ils veulent pas se considérer chômeurs. Ils espèrent qu'ils vont plus l'être, qu'ils vont pouvoir se retrouver dans cette norme de l'emploi dont on leur dit qu'elle est tellement, tellement formidable et que c'est à cet endroit-là qu'il faut être, quelles qu'en soient les conditions. Et parallèlement, souvent, les salariés, ceux qui ont des emplois précaires, je parle pas que des gens qui sont en CDI, hein, ont pareil ne n'arrivent, enfin souvent font pas le lien avec de leurs conditions de travail, leurs conditions d'emploi avec la façon de traiter les chômeurs, alors que en baissant les droits des chômeurs, c'est évidemment comme ça qu'il y a une main d'œuvre beaucoup plus corvéable que peuvent utiliser les employeurs et où chacun du coup se retrouve à avoir des meilleures, plus mauvaises conditions d'emploi, des plus mauvaises conditions de travail et des salaires réduits et qui se retrouve obligé d'accepter. Et si tant que les salariés se bougeront pas sur cette idée-là, et ben c'est sûr que c'est un petit peu compliqué.
Le chômage n'est pas vendeur.
On va faire une petite pause musicale et on prend la parole. Bonsoir, nous reprenons cette émission. Vous êtes bien sur 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. 106.3 FM, c'est Fréquence Paris Pluriel. Un numéro de téléphone pour nous joindre, le 0140-050610. 0140-050610. Ce soir, nous recevons Caroline de Sud Culture et du CIP et Clémence et Hélène des Matermittentes. De la CIP, pardon. Je reprends. Et nous parlons effectivement ce soir des concertations donc à propos de l'assurance chômage concernant les intermittents du spectacle. Voilà. Donc, est-ce que
Pas seulement.
Voilà. Donc, tout ce qui touche les intermittents, également les intérimaires, etc. Donc, j'aurais bien aimé savoir, moi, un petit peu, comment se sont passées ces concertations, justement.
En fait, c'est quoi la CIP ?
Oui.
C'est la coordination des intermittents et précaires.
Voilà.
Qui est constituée en plusieurs collectifs nationaux. Il y a plusieurs CIP dans toute la France et qui se retrouvent en coordination nationale de temps en temps.
En fait, ce serait l'équivalent d'AC version intermittent du spectacle, en fait, et précaire.
Ouais, ça peut ça.
Je ne connais pas le fonctionnement d'AC, mais...
Oui, c'est ça, déterritorialisé.
D'accord. Alors, qui veut parler un peu des concertations, quand ça s'est déroulé, tout ça, non ?
C'est pas bonne, voilà, déjà dire que voilà, donc Hélène disait tout à l'heure qu'il y avait une première étape qui avait été terminée grâce à l'annonce de Valls qui a tout fait pour justement briser la mobilisation qui avait lieu et sauver les festivals d'été. Et justement, en annonçant entre autres des concertations, donc des concertations sur les annexes 8 et 10 et parallèlement une prise en compte du différé d'indemnisation des intermittents par l'État.
Juste pour préciser ce que c'est qu'une concertation, donc c'est en fait tous les syndicats du secteur qui sont réunis, les caisses professionnelles, donc audience, les congés spectacles, Voilà, en gros, l'AFDAS, voilà. Et c'est donc, et en l'occurrence, les concertations réunissaient aussi des chercheurs. Voilà, c'est juste pour préciser.
D'accord.
Et que donc ces concertations sont donc arrivées dans un contexte où il y avait une lutte sur l'ensemble de la convention UNEDIC, parce que quelque chose qui nous déjà à l'époque avant qu'il y ait constatation des dégâts que ça a entraîné, qui nous effrayait énormément, c'était cette histoire de droit rechargeable qui était prévue. Mais il y a aussi un autre point qui est assez inadmissible, c'est le différé d'indemnisation pour l'ensemble des chômeurs qui passe à, j'ai oublié dans ma tête, 180 jours, qui est quand même absolument énorme. C'est-à-dire que si les gens ont des indemnités supplémentaires de licenciement, ils se retrouvent en contrepartie, eh ben, pendant une période donnée, ils n'ont pas de chômage. C'est-à-dire que quelque chose qui normalement était un droit acquis par les travailleurs qui se retrouvaient au chômage, qui était censé être fait pour que qu'on puisse se retourner, on puisse imaginer autre chose, inventer autre chose, prendre le temps de et non parce que du coup pendant les temps à venir, cet argent-là, il faut l'utiliser pour vivre, pour son quotidien uniquement. Enfin voilà, donc, des choses comme ça qui concernent l'ensemble des chômeurs. Oui.
Leur première indemnité vont tomber 6 mois après avoir perdu leur emploi.
Mais d'accord.
Ça peut aller jusqu'à six mois.
Et justement, ce qui a aussi fait faiblir le mouvement, c'est bien que Valls a décidé que l'État prenait en charge ce différé d'indemnisation. Non,
c'est pas le même. C'est celui d'un différé d'indemnisation spécifique qui concerne les intermittents.
Oui, c'était exclusivement pour les intermittents.
Mais justement, alors qu'il était très grave sur le cas général et. Et celui-ci, évidemment...
Et c'est passé comme une lettre à la poste.
Et en fait, ce qui est terrible, c'est que, alors que cette lutte, elle était sur les règles pour le chômage de façon générale, avec les concertations, il les a mis uniquement sur la question des annexes 8 et 10, au départ, dans le cadre du chômage, et je ne vais pas à la conclusion tout de suite, mais malgré tout, sur la fin... de ces concertations, sur son rapport et sur quoi ça parle. Ça parle de l'emploi artistique, et c'est-à-dire que le chômage, en fait, là-dedans, il n'en est plus vraiment question. Les problèmes avec Pôle emploi, non, ça n'existe pas. Et puis le lien avec l'ensemble des travailleurs précaires et la discontinuité de l'emploi en général, ça, ils affirment que ça n'a rien à voir. Donc ils ont complètement perverti ce sur quoi a été la lutte au départ.
Mais tout le travail, justement, ça a été aussi, en étant présent aux tables, d'élargir le débat à l'ensemble des professions discontinues. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu... ce qui a été obtenu, par exemple, sur l'accès à la protection sociale, parce qu'en fait, les concertations ont été divisées en différentes tables. Il y avait une table sur la formation, une table sur la protection sociale, enfin, il y avait comme ça différents ateliers.
Et une table sur la structure du régime, oui.
Peut-être que vous pouvez nous expliquer, par exemple, ce qui guette un travailleur, un employé ou un salarié, quand effectivement il travaille moins de 50% vis-à-vis de la sécurité sociale, par exemple. Quel problème il peut avoir à ce moment vis-à-vis de l'indemnisation maladie, l'indemnisation pour maternité, et qui concerne tous les salariés, pas seulement les intermittents?
En fait, le collectif intermittent, il s'est constitué autour de cette question de maternité et de maladie, puisqu'en effet, des personnes qui alternent des périodes d'emploi et des périodes de chômage peuvent avoir du mal à avoir leur congé maternité ou leur arrêt maladie indemnisé par la sécurité sociale. D'une part, parce qu'il y a eu un grand problème, grand dysfonctionnement, mauvaise application des textes en vigueur, etc. Et d'autre part, parce que la sécurité sociale demande de réunir des conditions pour ouvrir des droits qui sont totalement inadaptés aux formes d'emploi actuelles et en plus en inadéquation, par exemple, pour les intermittents, avec ce que Pôle emploi demande à un salarié pour être indemnisé au titre des annexes 8 et 10. Notamment, une question de seuil, en fait, la sécurité sociale, elle regarde si le salarié a travaillé 200 heures sur 3 mois qui précèdent ou l'arrêt maladie ou le début de grossesse ou le début de congé maternité. Et en fait... cette question des seuils, elle cause en fait une rupture de droit, puisque si le congé maternité ou l'arrêt maladie n'est pas indemnisé par la sécurité sociale, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, qu'on ne peut pas travailler et qu'on est radié de Pôle emploi puisqu'on n'est plus apte à la recherche d'emploi. Donc c'est une rupture de droit qui peut durer vraiment de très nombreux mois dans des situations où les salariés sont très peu en position de se défendre, enfin où c'est difficile, soit parce qu'on a un enfant, soit parce qu'on est très gravement malade, ou sur une très longue durée. Et du coup, à la suite de ces tables rondes, une des seules choses qui a été conclue et qui est une avancée du coup réelle pour l'ensemble des salariés en emploi discontinu, c'est l'abaissement des seuils, de passer de 200 heures à 150 heures sur 3 mois. Donc ça, c'est quelque chose qui va bénéficier à l'ensemble des salariés et des chômeurs. Mais pour nous, ça reste largement insuffisant, puisque ce qu'on préconise, c'est de rechercher des heures sur des périodes glissantes et pas sur des périodes fixes, puisqu'on n'a pas de maîtrise ni sur les dates de conception, ni sur les dates de congé maternité, et encore moins sur les dates de quand on tombe malade.
Mais donc, en fait, la sécurité sociale n'est pas adaptée au régime des intermittents du spectacle. La façon d'indemniser...
Mais c'est pas, sociale... en fait, aux intermittents du spectacle. C'est qu'en effet, c'est plus pensé. C'est, encore une fois, pensé pour la majorité des emplois en CDI. Mais c'est plus du tout, c'est pas du tout adapté à la discontinuité de l'emploi.
Ah ouais, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les droits rechargeables, qui paraissaient au départ une bonne idée, puisque... ça permet aux chômeurs de rester éventuellement, de toucher quand même ses indemnités, même quand ils sont obligés de partir du chômage, ensuite de se réinscrire. Donc ils gardent une certaine continuité dans ces indemnités, finalement. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces droits rechargeables?
Une continuité dans la précarité.
Okay, d'accord.
Et, parce que voilà, en effet, c'est comme ça qu'ils ont été annoncés comme une avancée. Et sauf que à cette possibilité de recharger qui est offerte est associé le fait de ne pas avoir le droit de changer. Donc si avec des règles qui s'appliquent, qui font que on peut se retrouver à avoir des... Par exemple, je vais prendre un exemple, ça sera peut-être plus simple. Si on a eu un temps un petit boulot, qu'on a ouvert des droits au chômage avec ça, on va avoir évidemment une petite indemnité. Si on retravaille, les jours où on travaille, ben on n'est pas indemnisé, donc la fin de l'indemnité arrive plus tard. Avant, on avait le droit de dire, ben voilà, là, j'ai eu une période de travail importante. Derrière ça, je fais recalculer mes droits au chômage en fonction de ce que j'ai cotisé pendant cette période. Et maintenant, ça, on n'a plus le droit. C'est-à-dire que si on se retrouve à la fin de cette période de travail, eh ben c'est les indemnités qu'on avait eues précédemment qui continuent à courir. Et donc, on a toujours ces toutes petites indemnités. Et donc, et si on ne retravaille plus, et à chaque fois qu'on retravaille, c'est décalé et on ne peut pas s'en sortir.
Il n'y a pas de recalcul des droits à chaque fois qu'on... Non, il n'y a pas de recalcul.
Non. En fait, d'accord. Il faut écluser sa cagnotte de ouais. droits pour être calculé. Et par exemple, nous, on reçoit aussi beaucoup de courriers de personnes qui sont employées en contrat aidé, comme oui. des chargés de prod, par exemple. Et puis qui ensuite réussissent à faire leurs 507 heures parce qu'elles travaillent comme chargées de prod et elles pourraient ouvrir des droits aux ADEX 8 et 10, mais il leur reste 273 jours de droits rechargeables à écluser. Puis plus elles travaillent, plus ça repousse. Et donc parfois, ça peut mettre 2 ans avant de dire ben, je pourrais prétendre une indemnisation intermittente.
Sans compter que du coup, parfois, on trouve des indemnités à 7 euros par jour. Hein, donc 7 euros par jour, ça ne permet pas de vivre sur un mois.
Et en voilà. plus, plus l'indemnité est basse, plus elle dure.
Ah oui, plus elle est basse, plus elle dure. C'est-à-dire plus elle est. Plus
bah oui, elle... puisque si on quand on retravaille, l'indemnité va, enfin, ça va être d'autant plus décalé. En fait, plus on travaille, moins cette indemnité est donnée. Puisque c'est un calcul un peu pourri justement qui implique ce décalage qui fait que on aura tant que si nos indemnités ne sont pas données ce mois-ci, eh ben, elles vont d'autant plus se décaler dans le temps.
Donc c'est une véritable catastrophe, hein, ça précarise l'ensemble des chômeurs et en fait actuellement il y a plus de, il y a en tout cas l'UNEDIC a constaté par elle-même que 30 000 chômeurs sont dans une situation, voilà, avec une baisse de droits drastique. Du côté des associations, on parle de 100 000 ou 200 000, 300 000, enfin bref, c'est pas un petit chiffre. Il y a des actions qui sont menées par les collectifs, notamment actuellement on fait un appel à toutes les personnes qui sont dans cette situation pour donc témoigner, voilà. Alors je sais pas, j'ai pas les coordonnées là tout de suite pour envoyer sur une liste, une adresse mail.
En regardant sur le site de, par exemple, de la CIPIDF, voilà, CIP-IDF.org, il y a un article sur cette cata droit rechargeable. Pour, où ça dit quel est le problème et comment on fait pour essayer de se défendre, voilà, collectivement.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le cadre de la requête au Conseil d'État, nous avions donc déjà évoqué ce problème, c'est-à-dire qu'avant même qu'on envoie les effets dans le réel, on savait déjà, les collectifs, en ayant expertisé la convention et la manière dont elle allait, enfin les mécanismes qu'elle était en train de mettre en place, on savait déjà l'hécatombe que ça allait produire.
Et aujourd'hui, les partenaires sociaux disent que ils n'avaient pas vu ce que ça allait faire. Alors, quel que soit le fait, soit ils mentent et c'est ce qui est une possibilité, soit ils ne mentent pas et c'est quand même grave d'avoir signé une convention en ne sachant pas ce que ça va donner.
Et d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est une mise en application de l'incitation au travail vue par le gouvernement, finalement, sans le dire, puisqu'il s'agit en fait de baisser les droits. Au prétexte que les gens retrouveront bien du travail puisqu'ils y sont contraints.
Ça se combine tout à fait aussi avec toute l'attaque qui est faite contre les CHSCT, la représentation syndicale en entreprise, etc. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un ensemble de c'est une attaque massive, en fait.
Les déclarations de Rebsamen.
Voilà.
Voilà, et c'est quelque chose aussi qui s'applique en France, mais qui s'applique à l'échelle européenne. D'ailleurs, le 14 novembre dernier, il y a eu une mobilisation européenne pour la défense des droits des chômeurs, parce que partout, il y a, en Allemagne, c'est très très fort avec les lois Hartz, mais on a ça aussi en Angleterre, enfin, on a des choses similaires dans d'autres pays. Où le but, c'est vraiment de créer des précaires, créer des gens corvéables pour casser la vie des gens, en fait.
Or, ce qui est important, c'est de constater que dans le cadre de ces concertations, on a pu proposer différents modèles d'indemnisation et d'indemnisation notamment des annexes 8 et 10, donc des intermittents des spectacles, mais c'est des modèles d'indemnisation qui pourraient être appliqués à l'ensemble des salariés en profession discontinue. Et donc, ces modèles d'indemnisation ont été chiffrés sur la base donc des chiffres de l'UNEDIC. Il y a eu une grosse bataille pour récupérer les bons chiffres, etc. Et donc, ces modèles s'avèrent donc plus équitables et moins coûteux.
Par exemple,
donc,
plus redistributif. Un exemple
plus redistributif.
Plus redistributif, ouais. Excusez-moi, c'est peut-être
non,
pas...
Non, mais je...
Ouais, bien sûr.
Et tu peux donner un type de modèle, par exemple? Alors.
Vu que ça a été fait sur le cas des intermittents... La base, c'est déjà de, au lieu d'avoir, comme depuis 2003, cette indemnisation glissante avec une recherche de droit sur 10 mois ou 10 mois et demi, selon qu'on est artiste ou technicien, parce que à l'UNEDIC, ils veulent que ça soit des choses différentes. Et c'est de regarder avec une date anniversaire en prenant sur 12 mois, avec indemnisation sur 12 mois. Déjà, il y a cette base-là qui est super importante. Et avec le fait aussi, enfin, de mettre
un seuil,
un plafonnement sur le cumul entre le salaire obtenu et l'indemnisation, mais aussi de faire un déplafonnement des cotisations, puisqu'à l'heure actuelle, si on gagne beaucoup, et ben il y a une partie de ce sur quoi on travaille où on ne cotise pas.
C'est tout à fait étonnant, ça, comme
effectivement.
Curiosité. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes d'accord finalement avec le plafonnement indemnité, enfin de cumul indemnité plus travail, parce qu'on a on a quand même beaucoup entendu que non, c'était un vrai scandale cette histoire, sachant qu'effectivement les seuils sont quand même très élevé par rapport aux autres pays européens. Bon, Certes, le régime d'intermittent n'existe pas forcément dans les autres pays européens.
Non, il n'existe pas. C'est le seul endroit.
Mais bon, en termes de cumul d'indemnités globalement en France, on sait que les plafonds sont nettement plus élevés que les autres pays européens.
Mais sur ces plafonds de cumul, l'idée c'est justement une répartition plus équitable, enfin plus pour une meilleure redistribution justement pour ceux qui travaillent moins à ce moment-là, qui aient en parallèle plus d'indemnités, mais avec justement le modèle de la coordination des intermittents et précaires, il y a une recherche d'éviter tout ce qui est effet de seuil, donc de lisser sur 2 ans, je crois, pour les prises en compte de ces histoires de cumul ou de décalage.
Et puis, il y a aussi l'idée d'avoir une seule annexe.
Ah oui, le côté annexe unique, ben justement, puisque le but, c'est que ce soit un modèle qui puisse être adapté à l'ensemble des travailleurs à emploi discontinu. Déjà, la base, c'est de ne pas avoir une annexe différente pour les techniciens et les artistes. Une annexe unique, donc, pour l'ensemble des...
Pourtant, je vous posais la question comme ça, hein, mais il n'y a pas de différence entre techniciens et artistes en termes d'emploi.
Fait est qu'on est employé sur des emplois discontinus, sur des moments qui correspondent à un spectacle.
Je voulais dire en termes de volume horaire travaillé. Est-ce que par exemple les techniciens ne travaillent pas plus hein, finalement, qu'il faut pas mieux être technicien?
Non, il y a une différence qui éventuellement qui existe par le fait qu'on dise des cachets pour les artistes et des heures pour les techniciens, enfin, mais ce qui compte c'est la forme d'emploi, ces emplois en CDDU où on ne sait pas quand est-ce que ça va
tomber.
Tu peux
expliquer ce que c'est CDDU pour les éditeurs?
Bah, le CDDU, c'est juste un contrat d'usage qui est spécifique pour les intermittents, en fait.
Et d'autres types.
Oui.
Mais voilà, c'est les endroits où, parce que normalement, on n'a pas le droit de faire plusieurs CDD à la suite.
Avec le même employeur.
Voilà, avec le même employeur. Bon, ça, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas. Mais
dans la pratique, j'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, on est de plus en plus amené à travailler parfois dans l'annexe 8 et parfois dans l'annexe 10, malgré la dénomination du métier, quoi.
Oui, il y a une réelle porosité entre les deux annexes. De la même façon qu'il y a aussi c'est distinguer les heures qu'on fait en annexe et les heures qu'on fait au régime général. Bien souvent, ça n'a pas de sens. D'autant moins dans la mesure où certains emplois où on est, où on travaille justement par rapport à de la compétence d'artiste ou de technicien du spectacle, je ne sais pas quoi en l'occurrence, sont malgré tout considérés comme des heures au régime général. Alors que devrait y avoir juste un lien entre toutes ces choses-là, juste parce qu'on est employé et que...
Alors comment faire le lien avec les intérimaires qui ne sont pas dans le spectacle, justement, au niveau des droits, tout ça? Comment vous allez mettre ça en place en termes de proposition pour que, justement, tout le monde ait... se partage.
Oui, mais pas seulement les intérimaires et pas.
Bien, c'est ça. Intérimaires.
D'accord.
Voilà, ils sont mobilisés l'an dernier, mais pareil avec ce côté difficile qu'on évoquait l'autre jour de d'oser se mobiliser en fait. Et parce que si tu vas pas dans ta boîte d'intérim ou bien que tu vas pas faire ton boulot, la prochaine fois on te reprendra pas, quoi. Alors que pourtant, l'annexe 4, donc qui est l'annexe spécifique des intérimaires dans le régime d'assurance chômage, a été énormément attaqué l'année dernière. Le nom d'annexe 4 existe encore, mais elle a été complètement vidée de sa substance. Et où les droits sont minorés. Et parallèlement à ça, en fait, un grand nombre de personnes ont été exclues de cette annexe. Parce qu'avant, c'était donc les gens qui sont embauchés en boîte d'intérim et aussi ce qu'on appelait les intermittents hors spectacle. Et tout cela, ils se retrouvent au régime général. Il n'y a plus que ceux qui passent par une boîte d'intérim, même s'ils font le même boulot. C'est parce qu'ils passent par une boîte d'intérim, ils seront à l'annexe 4. Les autres, ils se sont juste fait virer.
Oui, et c'était pas le cas avant, donc. Mmh. Sachant que le régime enfin, des intérimaires était un petit peu plus avantageux que le régime général.
Ben, oui, ouais, et, clairement, ouais. Ben, parce que c'est, il était plus adapté à cette question de discontinuité de l'emploi. Et de toute façon, le MEDEF l'avait dit dans les premières concertations, hein, puisque la discontinuité de l'emploi devient la norme, et ben, on va mettre tout le monde au régime général. Sauf que le régime général n'est pas adapté pour la discontinuité de l'emploi. Donc, c'est quand même un problème.
Je vous propose une petite chanson, ensuite on reprend la parole. Et oui, cette émission reprend ses modes d'emploi sur Fréquence Pas Pluriel 106.3 FM, émission des chômeurs et précaires. Nous sommes toujours avec les mêmes invités pour parler de la CIP en particulier, pour parler effectivement des intermittents du spectacle, mais également de tous les problèmes que pose effectivement Pôle emploi, l'UNEDIC, etc. Voilà, les problèmes d'indemnisation du chômage, bien sûr, qui sont extrêmement nombreux aujourd'hui. Nous reprenons cette émission juste pour parler un petit peu de la place des femmes dans ce mouvement. En quelques mots, peut-être
Ce qu'on peut dire sur la place des femmes, c'est que, de manière générale, elles sont c'est les plus exposées au mi-temps, à la précarité. Et voilà, et que nous, c'est parti sur cette question du congé maternité, mais que vraiment, c'est dur à faire entendre que c'est pas simplement le congé maternité, c'est aussi des arrêts maladie. Et que du coup, ça concerne vraiment l'ensemble des chômeurs. Et donc, on a assez. Enfin, personnellement, on a du mal à bouger, du mal à concentrer ça sur la question de la femme.
D'accord.
Voilà, malgré tout, ce qu'on disait, c'est que dans le quand on évoquait les 300 000 chômeurs qui vont avoir des problèmes avec les droits rechargeables, ce que veut bien dire l'UNEDIC, voilà, en grande majorité, les personnes en question, c'est les jeunes et les femmes. Ça, c'est sûr. Mais donc, quand même, revenir sur ce chiffre qu'a sorti l'UNEDIC, parce que justement, il y a quand même une mobilisation, oui, forte, malgré tout, qui existe contre ça. Certes, et ben, il y a les requêtes qu'on a au Conseil d'État, dont on a parlé, où on évoque évidemment ces questions de droits rechargeables. Et puis, il y a pour l'instant, des actions, voilà, il y a des actions, disons, de dénonciation. Par rapport au retour qu'on a dans les associations sur les personnes qui ont ces problèmes et où on fait des transferts des cas aux médiateurs de Pôle emploi et aux défenseurs non et enfin
défenseur des droits,
défenseur de droit.
Non, quelqu'un d'autre. Mais discrimination. Enfin, en tout cas, le fait est qu'il y a, on remontait tous ces cas pour justement qu'on puisse s'en occuper. Et donc l'UNEDIC est bien obligé d'avouer qu'il y a un problème. Cependant, en fait, comme d'habitude, quand on disait que dans les concertations, on était content quand même parce qu'on avait pu faire expertiser des modèles sur les bases des chiffres de l'UNEDIC. D'habitude, l'UNEDIC, elle travaille avec ses chiffres comme elle veut. Personne n'y a accès et surtout, elle fait ses modélisations comme elle veut. Donc, elle a fait une modélisation pour faire sortir un chiffre de 30 000 chômeurs qui dit, c'est quand même un peu grave, mais quand même pas trop. Mais pour ça, elle a mis les seuils qu'il faut pour que ça fasse sortir ce chiffre-là. Mais on voit bien dans les retours que c'est bien au-delà de ça.
Très bien. Merci d'avoir suivi. Cette émission se termine pour la rediffusion. Donc, on garde quand même 30 minutes supplémentaires. Donc, restez sur l'antenne, messieurs, dames. Merci en tout cas d'être venu. Merci à tous. À tout à l'heure.